Bonjour et merci d'être là pour saluer notre écrivain qui vient d'avoir le prix de la langue française à Brive et nous en sommes très heureux à l'intérieur du jury. Et je dois vous dire qu'à l'intérieur de ce jury très prestigieux, il n'y a pas eu photo quoi, il n'y a pas eu photo. Dès que le nom magique est apparu, d'ailleurs il y avait même certaines personnes du jury qui disaient mais il l'a déjà eu, mais enfin c'est évident, mais il l'a déjà eu. Ben non, Pierre Bergugnou n'avait pas eu le prix de la langue française. Donc, ça s'appelle le prix de la langue française. Donc, ma première question, Pierre, c'est celle-ci. Apparemment, elle est bête, mais elle n'est pas si facile que ça. Ça veut dire quoi, être de Brive ? Non, mais c'est une question centrale dans la structuration de l'œuvre de Pierre Bergugnou, entre parenthèses. Mais si on va voir s'il répond.
Si je commence, j'y serai encore demain ou aussi. Je ne sais pas par quel bout prendre cette cartouche de dynamite dont la mèche est allumée. Je réfléchis l'air de rien. Essayer de tenir ensemble des dispositions un peu contraires et de ce fait explosives. Les bacorésiens que nous sommes participent de la Gascogne, de l'esprit gascon, quelque chose d'emphatique et qui nous distingue assez catégoriquement du restant de la population du département. J'ai la faiblesse de croire que j'en parle en connaissance de cause parce que, voilà un million d'années, mon cœur m'a entraîné vers la Haute-Corrèze où il avait plu aux dieux de cacher la plus intéressante des demoiselles. Et j'ai nettement perçu le préjugé très défavorable des hauts corréziens, c'est-à-dire des vrais corréziens, à l'endroit des Gascons que nous étions et que nous sommes. La première chose, je ne résiste pas au plaisir douloureux de vous la livrer, que m'est confié un habitant de la Haute-Corrèze lorsqu'il a appris que la fille de la maison ramenait un briviste. Ça a été, et ça s'adressait à moi. Ah oui, les gens de Brive, ils parlent bien. Et il m'a fallu une demi-seconde pour comprendre qu'on venait de m'enfoncer un poignard empoisonné entre les deux épaules. En même temps, Brive était l'agglomération la plus importante dans un rayon de 200 km. Pardon, il faut tenir compte de Limoges. Mais il n'y avait rien autour. Nous vivions dans une sorte de profond isolement dont témoignait le fait que, par exemple, chez un vieux monsieur, tous les mardis et tous les samedis matins, sur le champ de foire de ce qui s'appelait à l'époque, je crois, la Plastière, et qui est devenue la place de l'âtre de Tassigny, la paysannerie des environs confluait en poussant des vaches indociles et des porcs stridents. Et une chose déconcertait énormément le petit citadin que j'étais, qui était que je ne comprenais pas ce que disaient ces hommes frustes, grossiers, un peu sauvages, qui étaient mais des paysans, qui avaient formé depuis la nuit des âges de la population de notre petit pays. Une dernière chose, nous avions un lycée, et premier, je pense, de nos lignées, nous avons été au moins initiés à ce qu'on appelle la culture lettrée, laquelle est exclusivement francophone. Il n'y a pas de littérature occitane, si ce n'est très tard, et elle émane, par la force des choses, non pas tant de ceux qui retournaient la terre depuis le fond des âges, mais d'intellectuels, citadins, qui s'efforcent d'imprimer, de conférer une certaine noblesse à ce qui a été longtemps la langue toute orale de la paysannerie. Donc, Brive, pour le gosse que je fus ici même, c'était tout cela à la fois. Le sentiment de quiétude relative que nous procurait le bassin dans lequel nos jours se passaient, la protection que dispensait ce cercle des collines au cœur, au centre desquelles Brive est bâtie, les premiers échos du monde du dehors, de la grande culture française par le biais de l'enseignement que nous recevions, et enfin cette espèce de scission entre ceux qui avaient été depuis toujours les habitants du lieu, la paysannerie occitanophone, et nous qui étions promis, même si nous ne le savions pas encore, à partir au loin et à mâcher le pain amer de l'exil. J'en finis, Laure.
Alors, mâcher le pain amer de l'exil, c'est une des thématiques de votre œuvre, Pierre Bergougnoux. Il y a certains de vos livres qui sont dédiés à cette conquête de la langue, à cet apprentissage de la langue, à cette maîtrise de la langue. Et il y a un côté... langue perdue. C'était pas forcément la vôtre, d'ailleurs, cette langue perdue, ni celle de vos parents, mais peut-être celle de vos oncles, de vos grands-parents, etc. Je sais que vous avez milité à un moment, non pas pour la reconnaissance des langues régionales, mais pour l'enseignement des langues régionales. Et dans certains de vos livres, Pierre Bergougnoux, il y a cette espèce d'arrière-mémoire qui est le patois. D'ailleurs, hier soir, au moment de la réception de votre prix, vous avez évoqué. Donc, est-ce qu'on a tous la même langue? Est-ce que chacun a sa langue? Et est-ce que chaque langue correspond à un territoire, selon vous?
Un penseur du premier rang a avancé, il y a déjà longtemps, que l'essence des choses, c'est la contradiction. Nous n'aurons jamais ni répit ni cesse, pour la simple raison... qu'en tant qu'hommes et femmes, nous sommes confrontés à des choses contraires, voire plus ou moins incompatibles, que le meilleur de nos soins va à marier, va à harmoniser. Ce qu'on appelle le patois, ce qui est un terme extrêmement méprisant, ça vient de pâte, patu, pâteau, un parler à grosse pâte, un parler de rustre, un parler de roturier. A été d'usage courant aussi longtemps que nous n'avons point eu de rapport avec le dehors. On ne bougeait pas. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais gosse, ici, à Brive, la difficulté que c'était de s'éloigner. Soit on prenait à intervalles plus ou moins réguliers un car à la gare routière qui se trouvait sur l'avenue Jean Jaurès. Enfin, les gens qui ont un peu mon âge se rappelleront peut-être que des autocars avec une marquise sur laquelle il y avait des caisses pleines de poulets vivants, des bagages, du grillage, etc., quittaient à intervalles, là encore, plus ou moins réguliers, cette gare routière pour aller naviguer un peu partout dans la campagne prochaine que ne desservait pas le chemin de fer. Rien n'était intimidant comme l'entrée en gare de Brive de l'express en provenance de Paris-Austerlitz. Ça figurait sur un placard de tôle accroché au wagon, vert bouteille ou vert pruiné, qui repartait ensuite avec fracas vers la capitale. Et obscurément, je dirais, cette espèce de mémoire longue dont chacun d'entre nous est porteur, de ce que nous nous exposions à toutes sortes de retentissants ridicules chaque fois que nous franchissions les limites de notre canton. C'est pour ça que j'ai cru devoir rappeler hier quelques-unes des redoutables épigrammes que nos ascendants proches et lointains ont essuyées chaque fois qu'ils se risquaient hors des limites du canton, et découvrait cette image extraordinairement dégradée de nous-mêmes que nous tendait avec plus ou moins de complaisance des gens dont on pouvait attendre plus de compréhension, d'indulgence. C'est pour ça que j'ai fait allusion à ce grand historien qui est Jules Michetet, qui a passé chez nous et noté immédiatement à quoi tenait le mal. Bon, nous sommes les rejetons d'une terre marâtre qui nous a tenus longtemps à la portion congrue de blé noir et de châtaigne. Et je ne l'ai pas dit, il faut l'ajouter, le grand spécialiste de Jules Michetet s'appelait Paul Vialanet. Il était natif de Tulle. Il a consacré toute sa vie, toute sa carrière à l'édition illustrée, commentée, savante des œuvres de Michelet. Et j'ai songé, lorsque j'ai découvert ça, il y a déjà une quarantaine d'années, que c'était justice si un de nos petits compatriotes eh bien, rendait hommage à celui qui, passant outre à tous les mauvais préjugés dont nous étions l'objet et les victimes, avait perçu le fond des choses, à savoir que bon, c'est une région pauvre, c'est irrémédiable, le roc à fleurs partout, nous n'y pouvons rien. Et ça explique la gaucherie, les maladresses, l'ignorance qui ont été longtemps notre triste partage, notre lot.
Alors j'ajoute que Jules Michelet, outre sa réhabilitation de votre pays natal, il a quand même réhabilité l'honneur des femmes en écrivant un livre magnifique qui s'appelle La Sorcière. Et il l'a fait quand même un siècle et trois quarts avant tout le monde, et c'est un geste à la fois intellectuel, historique, mais aussi moral, éminemment politique. Mais en ces temps justement d'assignation d'identité, en ces temps où dans certains discours on est français, N apostrophe, que si on vient de quelque part, que si on est natif d'une terre d'origine française, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette assignation d'identité, être de quelque part pour vous? Et comment ça, qu'est-ce que ça vous évoque d'entendre ça dans la rumeur, hélas, insistante de nos temps un peu troublés, Pierre Bergougnou?
Vous êtes prêts? Je vais parler pas de toi. Alors bon, le dialecte, Cheido Brivo, je suis de Brive. Et quoi qu'étant de Brive, par toutes les fibres de mon corps, Je me sens profondément, non, férocement jacobin. Je pense qu'une des plus jolies phrases qui soit jamais sortie de la bouche de quelqu'un, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de l'été 89. Ce que l'on a appelé les patriotes constitutionnels se trouvent dans le cas de faire trembler les voûtes du ciel en annonçant à la face de la terre que désormais, tous les hommes naissent libres et égaux. J'attire votre attention sur le fait qu'ils n'ont pas dit tous les Français. Tous les hommes. Ils ont fait abstraction de toute espèce de particularité concrète, bizarre, située, datée, locale, subcantonale. Non, tous les hommes. Et je tiens que c'est sans doute un des actes les plus éclatants qui ait jamais été accompli sous le soleil. Sous ce rapport, je me sens dû. Je vais citer Socrate. Socrate, d'où es-tu? Et il répondait, Socrate, je ne suis ni d'Athènes, ni grec, je suis du monde. Un voisin périgourdin qui s'appelait Michel de Montaigne, une extraordinairement belle figure. Je porte en moi la forme entière de l'humaine condition. Nous sommes, par la force des choses, parce que nous sommes ainsi déterminés, partagés tous entre ce petit coin de la terre où nous avons fait nos expériences premières, fondamentales, imprescriptibles, indélébiles, irréversibles. Pour ce qui me concerne, ça s'appelle Brive-la-Gaillarde. Mais dans le même temps, nous sommes les légataires et nous sommes comptables d'un certain nombre d'initiatives historiques prises pour le coup par les gens du Nord, mais il y avait nos envoyés, la région Limousin avait aussi ses émissaires aux États généraux, puis à la Constituante, puis à la Convention, hein. Et tout cela est en nous, et à l'occasion se réveille, et nous sentons bien qu'il nous faut tenir un équilibre difficile entre ce qu'on pourrait appeler l'enracinement, les racines, le coin de terre, d'une part, et d'autre part, cet horizon d'universalité que, je baisse un peu le ton, le peuple français a embrassé tôt, premier dans l'histoire, et qui, si j'en crois ce qui s'est passé depuis lors, a fait école. Nous sommes porteurs de tout cela.
Y a-t-il plusieurs langues en vous, Pierre Bergougnou?
On peut dire que oui. Oui. Lorsque, par exemple, j'ai enseigné pendant 40 années, figurez-vous, et ce qui est encore plus amusant, comme c'était à Paris, j'enseignais, moi, occitanophone de souche et natif de Brive-la-Gaillarde, c'est en Corrèze, j'enseignais leur parlure, c'est-à-dire le français, le dialecte de l'Île-de-France, aux petits franciliens. Et de temps en temps, je me surprenais à sourire sous cape, bien sûr, de ce que c'était à moi qu'incombait le soin de leur indiquer qu'il y avait un certain usage plus particulièrement soutenu de leur idiome auquel j'entendais qu'ils se montrassent fidèles, qu'ils en fussent respectueux. Donc, quand j'étais au nord de la Loire, en présence d'élèves, selon la formule administrative, eh bien, je parlais la langue française. Mais lorsqu'il m'arrive de m'en retourner ici, avec un plaisir douloureux, je ne manque jamais de retrouver un certain nombre de tours verbaux qui nous sont propres. Je ne sais pas si vous avez conscience du fait qu'ils sont étroitement localisés. Par exemple, c'est pour l'édification de Laura Adler. On fait un usage tout à fait particulier de la particule « que ». On arrive « que », on mange « que ». Ah ben tiens, il est rentré « que », au sens de « tout juste ». Comme j'ai un peu circulé, je me suis rendu compte que cette formule n'était plus entendue lorsqu'on avait dépassé vers l'ouest l'Arche. Je vais être précis. Vers l'est, j'ai encore un peu entendu vers « oitou » avec le ton. Mais au-delà, non, à Ussel, jamais. Argenta en est, j'ai oublié quoi, ben, le nord bien sûr, je sais pas où ça tombe, peut-être bien dès avant qu'on atteigne Limoges. Nous avons un accent tout à fait particulier pour désigner certains objets d'usage courant, je pense les gouttières, ben, les canoles. Par exemple, mon maître du CM2, M. Gouillon, pour qui m'inspirait une crainte révérentielle, m'avait retiré un point à la composition française, noté sur 10, parce que j'avais employé le terme de canole, que tout le monde employait, en lieu et place de gouttière, voire, si on veut faire chic, de dauphin. Voilà. Bon, je suis parfaitement capable de suivre une conversation en occitan. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être le témoin et un peu le protagoniste d'un entretien dans cette langue très ancienne qui est beaucoup plus proche, par exemple, du latin que le français, pour une raison toute simple, qui est que les Germains, les grandes brutes blondes qui ont déferlé sur la partie occidentale de l'Empire, ont très bien compris, malgré leur cervelle de brute, que les bonnes terres se trouvaient au nord de la Loire. Quand on arrive dans le Berry, on comprend immédiatement qu'on est sur des terres fertiles. Je l'ai vérifié pas plus tard qu'hier, jusqu'à hauteur de la souterraine, un peu avant la souterraine, partout de part et d'autre de la voie ferrée, des labours, la terre est sombre. Et puis d'un seul coup, tout change, mais en l'espace d'une fraction de seconde. Et on a de part et d'autre des vitres du train, la campagne limousine, pauvre, un mauvais taillis, un peu émacié, déjà incendié par l'automne. Et ça explique à peu près tout, que le Berry, par exemple, ait donné des écrivains de l'importance de, allons-y, Georges Sand, la bonne dame de Noir, Alain Fournier, l'auteur de ce livre merveilleux qui s'appelle Le Grand Môle, tandis que, continuant de pratiquer notre dialecte, nous nous trouvions de ce fait interdits d'accès à l'expression publique de notre sens. Donc, selon que je suis ici, lors parmi mes petits concitoyens, ou que je fais le mariole en présence d'élèves dans la région parisienne, j'ai plusieurs langages. J'ajoute, il y a un troisième langage que je m'efforce parfois de ressusciter, qui est celui que pratiquaient ceux qui m'ont devancé et qui n'enfermaient pas, parce que l'heure était venue, l'explication satisfaisante de ce qui nous arrivait. Je vais vous faire une confidence. Dès l'âge de 8 mois, j'exagère un peu, mais pas trop. Bon, si vous préférez, vers 3 ans, 3 ans et demi, je réprouvais, sans naturellement le publier, parce que j'aurais eu une fessée. La manière dont les adultes abordaient le monde que nous partagions. J'y vois rétrospectivement l'effet de l'ouverture de ces départements ruraux de la périphérie à un monde extérieur qui, à nos yeux, s'apparentait déjà à l'âge ultérieur. Mais manifestement, une rupture sourde était à l'œuvre, qui a eu pour effet que, tout gosse, je trouvais que le langage que me tenaient les adultes ne répondait pas véritablement à ce que je sentais, donc à ce que les choses étaient, sont ou doivent être. et entre autres signes de ce que effectivement quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire indigène se produisait, c'est que la plus claire partie de ma génération, une fois les études secondaires terminées, s'est transportée vers toutes sortes de lointains dont pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas revenus. J'ai fini, Laure.
Non, mais c'est vrai qu'il y a dans votre œuvre littéraire, Pierre Bergougnou, il y a tout un pan de parler à la place des oubliés, oui. De s'exprimer en lieu et en place de celles et de ceux qui n'ont jamais droit à la parole. Et il y a aussi tout un pan de votre travail sur les mots, sur l'apprentissage des mots, qui porte sur votre pratique professionnelle, c'est-à-dire l'enseignement. Et vous avez écrit des livres sur l'école, sur ce lieu républicain où on nous dresse, ou alors on nous éduque, ça dépend de quel côté on se place, pour parler la même langue. Et vous avez écrit des textes assez ravageurs et d'une grande actualité aujourd'hui, quand on les reprend pour essayer de faire en sorte que l'école soit le lieu du respect de la propre individualité de chaque enfant, alors que justement ça peut être aussi le lieu de la fabrique, de l'écrasement de chaque personne future qu'il y a en chaque enfant. Est-ce que vous pourriez parler de cela? Parce que est-ce que c'est une éducation, entre guillemets, répression, c'est peut-être un gros terme, par non. La langue commune, ce qui se passe à l'école? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus et de mieux?
L'école ne fait jamais que ratifier, que légitimer l'inégalité de la distribution. Si vous regardez la liste des élèves admis dans les grandes écoles, scientifiques ou littéraires, elles recrutent ces grandes écoles dans les fractions cultivées, fortunées de la population, à peu près exclusivement. Bon, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. C'est dans le 6e arrondissement, les beaux quartiers. Je siégeais au jury d'admission une fois par an avec mes collègues plasticiens. Par déformation professionnelle, par curiosité, lorsque la fiche du candidat me passait entre les mains, je notais son origine géographique. Dans 80 ou 90% des cas, les candidats aux Beaux-Arts de Paris étaient originaires, bien évidemment, de Paris, voire pour certains du 6e arrondissement, ils auraient pu venir en robe d'intérieur ou en robe de chambre, de Lyon, curieusement, la France du Nord, Paris, Lyon, beaucoup moins Toulouse ou Marseille, qui sont pourtant des agglomérations importantes. Vous avez bien compris que, attaché comme je puis l'être à ma petite patrie, j'étais prêt à toutes les magouilles pour faire entrer dans cette vénérable institution des gens qui auraient un peu de sang corrézien dans les veines. Alors c'est extrêmement facile, les noms que nous portons nous trahissent à plusieurs kilomètres de distance. Alors, c'est arrivé à deux reprises. On a un appariteur qui lit le nom Mérignac. Oula, j'ai dit celui-là, c'en est un. Alors, je vais vous livrer un secret d'État. Nous étions 12 membres du jury, comme les apôtres. Et parfois, une discussion assez vive s'élevait entre collègues sur la qualité, le talent, les possibilités du gamin, de la gamine de 20 ans qui nous faisait face. Il arrivait invariablement, d'une année sur l'autre, que l'un des 12 membres du jury laisse tomber à mi-voix le mot « joker ». Aussitôt, la controverse prenait fin, l'élève était automatiquement admis sous la seule et unique réserve que le collègue qui avait prononcé le mot « fatidique » le ferait entrer dans son atelier dès la rentrée suivante pour rendre patente, éclatante, cette capacité qu'il avait seul décelée et qui avait échappé au discernement des autres collègues. Donc je vois entrer Mérignac. Bon, j'étais un peu nerveux pour ne rien vous cacher. Je tremblais pour lui, je me suis dit, c'est un corésien, il n'a aucune chance. On est foutus, il va, une fois encore, s'exposer à ce ridicule éclatant dont tous les malheureux, pareils à nous, ont dû essuyer la cruauté lorsque ils ont cru pouvoir aller fouler le dur pavé de Paris. Or, Mérignac, contre toute attente, enfin, veux-je dire de ma part, se tire à merveille des chausse-trappes que mes collègues multipliaient sous ses pas. Alors, au point où j'en suis, c'est comme un roman. Les professeurs avaient une sorte de couloir à eux réservé qui leur permettait de déboucher avant les élèves dans le grand hall où se regroupaient les candidats. Je prie en grâce mes collègues parisiens, voire étrangers, de m'accorder 30 secondes. Je me précipite dans le couloir dérobé et je tombe sur Mérignac qui s'attendait à tout, sauf à me rencontrer en travers de son chemin. Alors je m'adresse à lui, bien sûr, dans notre petite parlure, et je lui demande « D'Antechet !» Il me regarde d'un œil vitreux. Donc j'ai compris qu'il n'avait pas compris. Alors j'ai passé à la langue française « T'es doux que j'y fais !» Alors il est un peu ému. « De Paris, me dit-il. » Moi, pauvre idiot, avant, « De la Corrèze. » Ben, je dis « Il fallait commencer par là. » 2 ans après, alors ce jour-là, je ne siégeais pas au jury parce qu'on travaillait en binôme avec un collègue. Je vais pour donner mon cours dans le grand amphithéâtre. Un type m'attendait en travers de la porte, une épaule négligemment appuyée contre l'huisserie. Et il me jette un regard chargé de signification. Alors je m'efforce d'imprimer à ma prunelle un caractère significatif, sans trop savoir quel sens je devais lui imprimer. Alors le gars comprend que, pour le coup, c'est moi qui ne comprends pas très bien, et il laisse simplement tomber. Je m'appelle Bess. Bon, j'ai dit, ça va, j'ai compris. Donc, à la rentrée suivante, j'avais en face de moi 100 ressortissants du nord de la Loire qui parlaient pointu, et j'ai annoncé, à son de trompe, « On est 3 !» Il y avait moi, sur l'estrade, là, derrière la chaire, et juste sous mon nez, Meyrignac et Bess, voilà. C'est ainsi, nos chances sont minces parce que nous sommes un pays pauvre, nous sommes restés longtemps patoisants. Il n'y avait pas d'établissement d'enseignement supérieur à moins de 50 lieues. Ça explique à peu près tout. Notre histoire longue est en quelque sorte conditionnée, si ce n'est entièrement déterminée, par le fait que nous sommes tributaires de ce qu'on appelle les moins bonnes terres et qui, faute de ce que les économistes appellent le surproduit, n'ont jamais permis de financer les services des virtuoses, des peintres, des musiciens, des poètes, des philosophes, des penseurs, qui auraient permis aux ilotes que nous étions d'entrer dans l'évidence de leur sens. Voilà. Donc sur le tard, il faut se rattraper, il faut mettre les bouchées doubles, brûler les étapes et essayer de récupérer tout ce qui s'est passé dans l'intervalle et se perdra si on ne le porte pas dans ce registre second, éclatant, en principe ineffaçable, impérissable, que constitue la culture graphique, écrite, lettrée. J'ai encore terminé, Laure.
Non, mais sur l'école, vous n'avez pas répondu. Pardon. Et sur l'enseignement de la langue.
Bon, l'école ratifie l'inégalité de la distribution. Un Béarnais qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui nous a quittés voilà déjà 20 ans, a donné à la presse 2 livres capitaux. Le premier en 64, ça s'appelait Les Héritiers, ça, tout est dit. Et le second en 70 s'appelait L'Art Production.
Rien n'a changé depuis.
Et rien n'a changé depuis.
Au contraire, les choses se sont-elles aggravées,
Les choses n'ont fait qu'empirer. On avait, je pense à un écrivain qui s'appelait Charles Péguy, qui a été tué en 14, qui n'en revenait pas de ce que lui, fils d'une rempailleuse de chaises, se retrouve à l'école normale avec les enfants de la grande bourgeoisie parisienne. Et le destin de Bourdieu est à peu près similaire à celui de Péguy. Son père était métayer en Béarn. Il avait d'ailleurs une tête de Béarnais. Et m'a-t-il dit, on s'entendait bien parce qu'on était tous les deux du sud-ouest. La première chose que j'ai faite en arrivant, contre toute attente, contre toute espérance à Paris, ça a été de me débarrasser de mon accent. Il avait un accent. On a un accent assez prononcé, chantonnant, un peu ingénu, un peu prétentieux. Mais notre accent n'est rien à côté de celui des Béarnais. C'est effroyable. C'est terrible. Vous êtes perdu de réputation dès que vous ouvrez le bec. Rien de ce que vous dites ne peut valoir si vous le faites avec l'accent des environs de Pau. Ceux qui ont le privilège d'être purement francophones n'ont pas de ces problèmes, même si sur la foi de la conformation auriculaire qui est la nôtre, nous trouvons vulgaire.
Déjà ce mot vulgaire.
L'accent parisien. Allez mec, les Parisiens font des trucs bizarres. Je les écoute bien malgré moi quand je prends le RER. Il paraît que ça reste du gaulois. C'est très marqué. C'était très marqué dans les classes populaires. C'est un peu. Il palatalise systématiquement les consonnes dentales. Il dit la peinture. Mes étudiants, je fais de la sculpture. Je fais de la peinture. Ah ben j'ai garé ma voiture. Alors non, mais, c'est, le français, c'est eux, c'est pas nous. Mais peut-être parce que nous sommes un peu en délicatesse avec la langue nationale officielle, nous sommes peut-être plus attentifs qu'eux à la façon dont il convient de la réaliser, de la confier à l'air atmosphérique. Nous serions victimes, en quelque sorte, de l'hypercorrection qu'on prête aux petits bourgeois et aux provinciaux. Nous savons que le moindre écart nous sera compté durement. Donc, nous veillons scrupuleusement, timidement, pathologiquement à respecter les canons de la prononciation. Et jamais nous ne nous permettrions ces écarts dont sont coutumiers les gens, nos compatriotes, nos concitoyens du septentrionaux. Bon, là, l'école ratifie les partages, donc il y a très peu de corréziens dans les grandes écoles. Nous avons appris tard le français et nous en faisons un usage que je qualifierais de timoré, respectueux. Voilà.
Il y a une langue que vous avez oubliée, Pierre, c'est la langue de l'artiste, car vous êtes aussi un artiste, un sculpteur. D'ailleurs, vous exercez votre talent non loin d'ici, durant les étés, dans un endroit qui vous permet de donner place à cette autre langue. Est-ce que vous pensez en mots quand vous faites de la sculpture ?
Surtout pas, alors. Jamais. Je vais citer un garçon qui s'appelait Marcel Proust. Alors, il dit quelque part, sentir, virgule, penser, virgule, cette souffrance. Puisque je suis en veine de pédanterie, un immense philosophe allemand idéaliste qui s'appelait Hegel et qui évoque quelque part le sombre de la pensée. Rien n'est coûteux comme d'essayer d'apparier continuellement la chose à l'idée. Nous sommes tous cartésiens, c'est comme ça. Même si jamais le nom de Descartes n'a résonné à notre oreille, nous réglons la conduite de nos pensées sur des principes cartésiens, rationnels. Et Descartes fait résider l'évidence, la vérité, dans l'association, le mariage de ce qui se passe d'un côté, quoi que ce puisse être, et de ce que nous en pensons. Il invoque une formule de la scolastique qui est, bon, je vais traduire, « adequatio rei intellectus », l'adéquation, l'adhésion de la pensée à la chose. Alors, comme tout le monde, j'ai horreur de penser. Alors, ça me fatigue. Et parmi les dérivatifs plus ou moins puissants qu'on peut trouver à cette sinistre occupation, embêter des bouts de ferraille. Alors, je dois souffrir d'un certain nombre de travers monstrueux dont je ne suis pas tout à fait certain d'avoir ni fait le tour, ni percé le secret, le mystère, la nature, la cause, l'origine. Et au nombre de ces travers, la fréquentation assidue, ce qu'on appelle des casses. Et rien ne me délasse comme d'embêter des morceaux de fer avec tout l'outillage qu'il faut. Et puis de les souder. Maintenant, alors, pour être artiste, il faut une vie. Et c'est comme le mystère du continent noir. on peut explorer la périphérie, mais si on veut atteindre, je ne sais pas, les sources du Nil, il y faut une vie. C'est quelque chose qu'on notait d'emblée les premiers hommes qui ont fait réflexion à notre condition. Bon, Sénèque, il faut une vie pour apprendre à vivre. On ne peut pas courir plusieurs lièvres. Nous sommes finis, nous sommes périssables. Notre saison sera brève et par l'effet de je ne sais trop quel décret criminel que les vieux dieux jaloux, aux oreilles pointues, poilues, ont édicté, l'opposition que le monde, les choses, les vérités nous font. Donc il faut choisir. J'ai des copains qui ont, pas beaucoup, qui ont embrassé une carrière artistique, qui s'y consacrent en totalité, 15 heures par jour, continuellement, année après année, décennie après décennie, toute une vie, sans être jamais assuré qu'ils ont enfin atteint le cœur de la chose. Bon, je rentre en Corrèze 4 semaines par an. Je les emploie à m'amuser avec un poste de soudure à l'arc, une disqueuse et quelques autres outils. Mais je sais d'une science certaine que bon, c'est ce qu'on appelle un divertissement, un violon dingue. Si j'avais voulu faire carrière dans les beaux-arts, il aurait fallu que je m'y adonne en totalité. Et comme je vous l'ai dit, il y a peu de chances qu'un type sortant de notre département voit s'ouvrir devant lui la porte de l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc je pense être relativement sage en ne donnant que quelques heures, quelques jours chaque année à ce genre d'occupation et en réservant le restant de mon temps à l'exploration, l'explicitation, si pareille chose se peut, des nombreuses énigmes, des douloureux mystères dont j'ai hérité.
Le premier livre publié, Pierre Bergoglio, c'était Catherine. C'est un très beau roman. Vous avez en quelque sorte complètement effacé toute une partie de votre œuvre romanesque pour vous lancer dans un registre littéraire que vous avez littéralement inventé. Aujourd'hui, vous écrivez tous les jours et nous en sommes les récipiendaires, les bienheureux récipiendaires. À quelle heure écrivez-vous ? Pourquoi écrivez-vous ? Est-ce que vous écrivez plus que vous ne vivez ? Ou est-ce que vous vivez plus quand vous écrivez ?
Alors, on y sera demain matin avec des questions pareilles.
On peut lire Bergoglio des nuits entières, hein ?
Je ne sais pas par où commencer. Si, je sais. Je crois que je sais. Quand je suis arrivé, donc vous y êtes, j'ai 8 mois et demi, 9 mois là. What? 2 ans. J'attends, comme tous les enfants, des adultes, qu'ils me livrent l'explication que j'escompte. Je mettrai ça au compte de ce que Michel de Montaigne, à qui j'ai déjà fait allusion, appelle le naturel désir de connaître. L'avidité des petits-enfants. Je suis grand-père, je vois très bien que c'est quelque chose d'éternel qui, continuellement, se reproduit et se perpétue. Or, pour les raisons que j'ai dites, le basculement de la civilisation qui a marqué le début de la deuxième moitié du siècle dernier, c'est en vain que j'escomptais que les adultes allaient m'expliquer, ils ne l'ont pas fait. Donc, le gamin de 10 mois ou de 5 ans et demi confie à l'adulte qu'il deviendra peut-être, même si à 7 ans et demi, on n'imagine pas un seul instant qu'un jour, on va composer un aussi triste personnage que celui qui s'adresse à vous. Donc on tend à cet adulte qui est comme en attente là, dans l'avenir, la ruchée de questions irrésolues que nous dicte la situation. Et puis ben, on attend que l'adulte écarte le rideau rouge et fasse son entrée. Et alors curieusement, je me suis découvert un jour dans la peau de l'adulte et grevé du soin que m'avait confié le nourrisson de 6 mois ou le garçonnet de 6 ans et demi de dissiper les ténébreuses énigmes qui lui faisaient face là-bas au fond du temps et que l'heure était venue d'aborder, de résoudre, de dissiper. Alors, c'est une grande, je le dis bien sincèrement, c'est une grande peine. Nous ne sommes pas faits pour écrire. Pour parler, oui, la parole est naturelle. Elle court, elle glisse magnifiquement, merveilleusement à la surface des choses. les civilisations qui n'ont pas disposé de l'écriture ont dû s'arrêter devant le porche du mystère. La maîtrise du monde passe par l'écrit. Ça n'est pas de moi, c'est un anthropologue anglo-saxon, britannique, qui s'appelait Jack Goody, qui, au terme d'une étude magistrale sur l'émergence de l'écriture en Mésopotamie vers la fin du 4e millénaire avant notre ère, note « L'événement le plus important de toute l'histoire humaine, c'est l'invention de l'écrit. » Oui. Si on y fait réflexion une demi-seconde, oui. L'instrument le plus puissant que nous ayons aux mains, c'est l'écrit. Mieux encore, mieux, c'est l'alphabet. Il faudrait bâtir, à la place de Brune, par exemple, devant le théâtre, là, une statue en or 24 carats, qui représenterait non pas un de nos petits compatriotes, mais le génie héroïque, qui devait être un Syrien, je pense, ça s'est passé à Ougarit, vers le 14e siècle, qui, considérant que l'écriture cunéiforme des Assyriens, les idéogrammes chinois, les hiéroglyphes égyptiens, qui notent les choses, étaient trop nombreux, trop compliqués, trop lourds, trop mal commodes à utiliser. Il a fait ce geste apparemment tout simple, mais qui a décidé de tout. Il a fermé les yeux sur la splendeur, sur la diversité, sur la beauté du monde. Il ferme les yeux et il concentre toute son attention sur quoi ? Sur le souffle de l'esprit. Il se rend compte d'un coup que la variabilité infinie, inépuisable de la parole roule sur 20 sons, ce que les linguistes appellent les phonèmes, 20. Et tout autant que nous sommes ici, nous sommes les bénéficiaires, les légataires et les bénéficiaires de ce coup de force, de cet acte héroïque, il faut fermer les yeux sur la création, de cet acte génial, nom de Dieu, mais la parole roule sur 20 sons. Et noter de façon on ne peut plus commode ces 20 sons qui deviennent l'alphabet. Si par curiosité, c'est une opération difficile, vous essayez de vous empêcher de prononcer avec la voix intérieure le son A lorsque vous voyez une tête de bœuf à l'envers. Quand vous tracez un A majuscule, c'est une tête de taureau à l'envers, Aleph. Quand vous tracez un B, bête en hébreu, c'est une maison à un étage et à toit plein du Moyen-Orient sur la terrasse de laquelle on fait sécher les récoltes. Quand vous tracez un C, Gemel, c'est le cou du chameau. D, Dalet, c'est la porte. Tous autant que nous sommes là actuellement à Brive-la-Gaillarde, on est en 2021. Nous sommes comptables d'une invention révolutionnaire, celle de l'alphabet, soit en Syrie, soit dans le désert du Sinaï, et lorsque nous écrivons de façon cursive, sans même y prêter attention, tellement c'est simple, nous reproduisons une tête de bétail, A, Aleph, une maison à toit plat du Moyen-Orient, un cou de chameau, il n'y a pas tellement de chameaux à Brive-la-Gaillarde, une porte, D, etc. Mais nous sommes les légataires de ces trésors, de ces prodiges. Et je dirais que la merveille est que nous n'ayons pas conscience de nous servir continuellement d'une pareille merveille. Nous l'avons intériorisé. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des gosses, et nous le faisons de 6 ans, c'est de les introduire dans la salle de classe du cours préparatoire et leur dire, voilà, vous voyez, il y a 26 gribouillis là, au tableau. C'est la chose la plus belle, la plus géniale, la plus précieuse qui soit au monde. Pour parodier le bon Jean de la Bruyère, je dirais, après ça seulement viennent les diamants et les perles. Je ne sais plus où j'en suis, voilà, j'extravague et puis je m'éclate.
Le temps passe, mon cher Pierre, vous n'avez pas parlé de vous. On va peut-être terminer par vous. Vous n'aimez pas parler de vous.
J'ai horreur de ça.
Oui, mais nous vous lisons et nous savons très bien tout ce que vous faites, le jour, la nuit, grâce à ces carnets de notes que vous avez décidé de publier depuis maintenant pas mal de temps. Et donc, vous n'avez pas répondu à cette question. Est-ce que vous avez l'impression de plus vivre quand vous écrivez votre propre vie ?
Oui.
Pourquoi ? Pourquoi cette intensité particulière ? Vous suffirait de la vivre ? Parce que vous voulez nous la faire partager ? C'est ça, l'écriture ?
Oui et non. Par définition, l'écrit, qui est un médium historique, artificiel, et non pas naturel, comme les... tous les hommes parlent. On n'a jamais trouvé de groupe d'hommes si féroces, bizarres, idiots, allons-y, qu'ils aient paru aux yeux des Occidentaux que nous sommes, qui ne parlassent point. Il y a, on parle 5000 langues sur la Terre, dont seulement 300 sont écrites. Mais tous les hommes parlent. Tous. Et la différence entre ceux qui ne font que parler, c'est-à-dire qui vivent dans, allons-y, le totalitarisme d'une communauté parlante, et ceux qui ont l'écriture, c'est que ceux qui forment des pensées dissidentes, révolutionnaires, paradoxales, peuvent se mettre un peu à l'écart avec une peau de mouton, une carapace de tortue, une plaquette de calcaire sublithographique, du papyrus, du papier, un écran, et confier à ces supports autres que différents de son corps, qui ne périront pas, eh bien, ces pensées qu'il a formées et qui revêtent d'exister hors de lui un caractère de netteté dont la parole intérieure est dépourvue. L'écriture objective la parole, elle fait passer dans l'extériorité du monde spatial ce que ceux qui parlent commettent. L'erreur n'est pas le mot. Confie à l'air atmosphérique qui est ductile et oublieux. Tout ce que j'ai dit s'est dissipé. L'air n'a gardé aucune trace. Aucune. En revanche, si je l'avais écrit, solitaire, recroquevillé sur moi-même dans un coin, pour ensuite le cacher sous l'estrade, cela demeurerait les archéologues du 8e millénaire. Dire, tiens, on a trouvé des traces écrites dans ce qui, paraît-il, s'appelait l'espace gazo. Nous appartenons à une longue tradition historique entièrement pénétrée par l'écrit, et l'écrit, non seulement fixe, mais éclaire, intensifie ce qui nous qualifie en propre avec le langage articulé, c'est-à-dire la pensée. Nous sommes les bipèdes pensifs, juchés là-haut sur la pointe des pieds, au fait de la pyramide du vivant. Et l'écrit est une sorte de couronnement. Celle-ci qui m'a beaucoup troublé quand j'étais gosse. Brive est un grand centre de préhistoire. Vous êtes prête, Laure ? Je vais encore me vanter, ainsi que mes petits compatriotes.
J'espère bien, mais dépêchez-vous, hein, le temps nous est compté.
Bon, vous êtes prêts, on va se vanter.
Ben, vantez-vous beaucoup, alors.
Énormément. Le premier néandertalien français est sorti d'une grotte d'un village qui s'appelle La Chapelle-aux-Saints, qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Brive-la-Gaillarde, par les bons soins des professeurs, des prêtres qui s'appelaient Buissonni, qui sont nés à 200 mètres d'ici, et qui ont livré au genre humain cette merveille. La preuve, les Parisiens, apprenant la chose, ont dépêché Marcelin Boule, qui dirigeait le Muséum d'histoire naturelle, qui nous a volé le crâne original et nous a laissé une copie en plâtre dégueulasse. Je finis. Pourquoi c'est-il que les hommes de la préhistoire, qui étaient pareils à nous, Cro-Magnon, c'est...
Pourquoi c'est-il ?
Oui, pourquoi c'est-il-esque ?
D'accord.
C'est
le prix de la langue française.
Ouais.
C'est vous qui le dites, c'est super.
J'adore ça. Commettre des barbarismes et des solécismes, ça me repose. Pourquoi n'écrivait-il pas ? Mais parce qu'il n'en avait pas besoin. L'écriture est fille de l'esclavage, c'est tout. C'est pas la peine de chercher des traces écrites.
L'écriture est fille de l'esclavage.
Mais bien sûr, elle servait à comptabiliser le produit du travail forcé dans les empires hydrauliques de l'Antiquité. Elle est devenue, dans l'intervalle, le principal instrument de libération dont nous disposions, mais à l'origine, l'écrit ne sert qu'à tenir compte du tribut que chacun de ceux qui travaillaient sous le fouet devait verser aux despotes, aux satrapes ou aux prêtres. Ce qui fait que le même Goudy qui évoque l'événement le plus important dit des scribes, ah ouais, les premiers scribes sont des intellectuels subalternes à la porte du temple et du palais. Il tient le registre. Et puis on pense que vers le deuxième millénaire, un type dont j'ai oublié le nom va écrire le premier récit littéraire, s'appelle Gilgamesh, et on en a retrouvé les bribes un peu partout dans la région du croissant fertile en Mésopotamie. Bon, je suis long, mais c'est votre faute. Vous nous posez des questions tellement
mais
énormes.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des traces de domination et d'asservissement dans la langue, encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on est tributaire de cette histoire ?
Laure, vous n'êtes plus tout à fait un poulet de l'année. Vous savez mieux que moi que dès que quelqu'un...
Non, je suis une vieille poule.
Dès que quelqu'un a ouvert le bec...
Il est fier de l'être.
Dès que quelqu'un ouvre le bec, instantanément, en un centième de seconde, vous le situez dans l'espace social. Il appartient à telle classe, tel sous-groupe, il vient de telle région. Dès que nous confions à l'air ambiant les pensées qui nous agitent par le biais de la parole, notre interlocuteur décèle immédiatement derrière ce que nous disons, ce que nous articulons, infinité de choses que nous ne pouvons pas dissimuler. Je vous disais que je repérais mes petits compatriotes au nom patronymique qu'ils portaient, mais l'accent me renseigne immédiatement sur l'origine géographique de quelqu'un. J'ai entendu en Picardie, bon, ils ne parlent pas le français comme nous, c'est la langue française, mais en vérité, ils y apportent une touche qui n'est pas la nôtre. Quand nous parlons français, nous avons un accent tout à fait chantonnant qui s'est atténué pour ce qui me concerne, parce que j'ai passé 50 années au large, mais je n'ai pas encore pris pied sur le quai de béton de la gare de Brive, que j'ai déjà à nouveau dans l'oreille cette manière très particulière qui est la nôtre de parler le français. Un dernier truc qui m'a laissé longtemps énigmatique. Ma mère parlait un français extrêmement pur, comme disent les phonéticiens, alors que mes tantes, dont l'une était originaire du Quercy, avait un accent extraordinairement prononcé. Et c'est assez tard que je me suis avisé que ma mère avait été adolescente et enfant à Tours, et qu'elle parlait donc ce français très pur que l'on prête aux Tourangeaux pour la raison toute simple qui est que les rois, avant qu'ils ne s'établissent définitivement aux Tuileries, passaient de château en château dans le Val de Loire, et que la paysannerie qui vivait en étroite symbiose avec eux avait repris leur parlure. On a le contre-exemple ou le même exemple en Bourgogne. Vous avez entendu parler des Bourguignons, des fois. Ils roulent les airs. Bon, alors ça nous fait sourire. On a tort de sourire. C'est le parler de l'aristocratie, puisque le duc de Bourgogne avait cette façon de parler que spontanément la paysannerie avait adopté. La dernière anecdote, c'est en 1815, le roi Louis XVIII revient en France dans les fourgons des Anglais. La révolution est finie, les rois reviennent. Et devant les chambres, il prononce la formule rituelle « Le roué, c'est moins ». Et l'Assemblée a souri. Donc le roi, un peu déconcerté, se tourne vers ses conseillers, les sourcils levés, et un des conseillers lui dit « Sire, le roi, c'est moi. Le R, qui est le vôtre, excusez-moi, il est uvulaire et grasseillé. » C'est comme ça que disent les phonéticiens. Alors que le R des bourguignons, des berrichons, il est roulé et apical. Vous appliquez la langue contre le palais. Enfin, la diphtongue « oué », on dit le boué, moué, toué, c'est ouverte. Sous la Révolution, parce que c'est la bourgeoisie qui prend le pouvoir et qui évince la noblesse avec les privilèges, les titres et cette parlure qui était la sienne et qui aujourd'hui prête à sourire parce qu'il n'y a plus que les paysans qui la conservent, la noblesse ayant été décapitée en l'an 2 de la République, une et indivisible. J'en finis, Laure.
Dernière question. Le roi, c'est vous, Pierre Bergougnoux. Alors, je vais caricaturer du Bergougnoux. Je me lève ce matin, j'ai très mal dormi, je regarde par la fenêtre, le ciel est sombre, les nuages sont bas, je descends dans la cuisine, je prépare le petit déjeuner à mon amoureuse. Ah zut, j'ai oublié de faire la machine à laver, je vais faire la machine à laver, je sors de chez moi, je vais aller à la casse chercher des petits morceaux de fer bien tordus, parce que peut-être j'arriverai à faire quelque chose, quoique je ne sois pas grand-chose, etc., etc. Ça, c'est des extraits du carnet de notes de Pierre Bergougnoux, qui sont une véritable addiction chaque fois qu'ils sortent, parce que nous vous retrouvons dans votre quotidienneté. Je sais que vous avez fait votre thèse avec Roland Barthes sur Gustave Flaubert. Dans ce carnet de notes, qui représente un millier de pages, êtes-vous, comme Gustave Flaubert, à la recherche de vous-même ?
Non, sincèrement.
Alors, à la recherche de qui ?
Vous êtes prête ? Je vais citer, me cacher derrière André Breton, l'or du temps. L apostrophe O R. Une dernière chose, l'or, c'est un détail auquel j'accorde un grand prix. Je ne dirai jamais mon amoureuse parce que je n'ai jamais été entièrement persuadé que la fée Et la princesse
c'est
demande...
C'est moi qui dis mon amoureux.
Oui, là, je n'assume pas l'amoureuse. Hein. C'est moi qui suis par terre à pousser
les... Vous lui avez jamais déclaré son amour, votre amour.
Je peux pas. Vous avez... Laid comme je suis de Brive, enfin.
Merci, Pierre Bergougnoux.